9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Il y a une ambiance marseillaise ici au Palais de la Bourse. Nous sommes à quelques pas du vieux port. D'ailleurs, sur RMC Story, vous découvrez les images de ce matin. Il fait un temps magnifique à Marseille. Ça fait du bien d'être dans une ville où il ne pleut pas.
Exactement.
Et en France, en ce moment, c'est très rare. Nous sommes à Marseille. Pourquoi ? Parce que dans un mois, c'est le coup d'envoi des municipales et les grandes gueules avaient à cœur de prendre le pouls de la France et des grandes villes françaises à quelques semaines de cette échéance importante. D'autant plus qu'à Marseille, il y a une question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que le Rassemblement National peut l'emporter ici dans la deuxième ville de France? On en parlera, ça sera l'un des sujets de discussion tout à l'heure avec nos GG, mais permettez-moi de vous les présenter. Antoine Dierz, venu de Dunkerque.
Salut Olivier, bonjour à tous et bonjour à Marseille.
Laura Varton-Martinez, notre sophrologue de Taverny, bonjour. Et puis l'éducateur de la région parisienne, Abel Boyi, salut Abel.
Salut les amis, ça va Marseille? Et salutations aux jeunes de l'école de la deuxième chance qui sont là parmi nous aujourd'hui aussi.
Voilà, on salue les jeunes qui sont venus nous rejoindre, les moins jeunes, et dans ce magnifique endroit, c'est le Palais de la Bourse, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Ouais. C'est vrai que c'est sublime.
Très très beau bâtiment, très très bien placé, à deux pas du vieux port. Moi j'ai fait le tour hier. Hein.
Oui, alors il faut expliquer, c'est la première fois que notre Dunkerquois venu du Grand Nord découvre cette ville du Sud.
Parti à 5h56 de Dunkerque hier, je suis arrivé à midi, j'ai déjeuné avec un ami marseillais que j'avais pas vu depuis une quinzaine d'années. Et après, j'ai trouvé tout le port. Je suis monté, j'ai pris un coup de soleil en terrasse hier midi et j'ai trouvé ça très très beau. Alors, on est passé par des rues moins jolies hier soir aussi, mais sinon, tout ce qui est vieux port, Notre-Dame de la Garde en haut, voilà, j'ai été impressionné.
Vous avez vu ici, il y a du soleil.
Et il y a du soleil, mais il y a aussi du soleil à Dunkerque.
Hein, il fait jour.
Il fait jour.
Bon, alors on va bien sûr parler de Marseille, des municipales. On parlera aussi de l'un des enjeux numéro un, et pas seulement à Marseille, de ces municipales, c'est la sécurité, le besoin de sécurité. On demande à nos maires de mieux nous protéger avec la police municipale, la vidéosurveillance. Est-ce que ça suffit? Mais on va aussi bien sûr débattre de l'actualité. L'actualité, c'est toujours cette enquête autour de la mort du jeune Quentin.
Je pense qu'il faut une peine d'inéligibilité qui n'existe pas aujourd'hui. Le président de la République a évoqué une peine d'inéligibilité pour les gens qui étaient condamnés pour antisémitisme. On va profiter de ce texte de loi proposé par le président. Moi, je proposerais que des gens condamnés pour violences physiques qui auront lien avec les violences en réunion, c'est-à-dire les violences des ligues, pour rappeler les années 30, eh bien qu'on puisse pouvoir, que le juge, en toute indépendance, puisse prononcer une peine d'inéligibilité. Quand quelqu'un fait de la violence physique et a organisé des groupuscules qui demain peuvent tuer, évidemment, ils ne peuvent pas se présenter aux élections et siéger à la nationale.
On a bien compris que le garde des Sceaux visait particulièrement Raphaël Arnaud, hein, ce député de la France Insoumise, qui est aujourd'hui dans la tourmente parce que 11 personnes sont en garde à vue. Et parmi ces personnes gardées à vue dans l'enquête sur la mort de Quentin, il y a deux collaborateurs du parlementaire Arnaud et un ancien stagiaire. Donc il y a au moins 3 personnes proche de Raphaël Arnaud, gardé à vue, des membres de la Jeune Garde, ce mouvement d'ultra-gauche qui devait être dissous, mais qui visiblement existe toujours. Et donc, la question est de savoir, est-ce que Raphaël Arnaud peut rester député, Antoine Dierz?
Mais rappelons une chose aussi, Raphaël Arnaud lui-même a été condamné pour violence volontaire en réunion. C'était en 2022, cette condamnation.
Avant d'être élu.
Exactement. Le coordinateur national de la France Insoumise essayait sur les plateaux de dire que Raphaël Arnaud a fait le travail de la police. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans la décision. Raphaël Arnaud a bien agressé quelqu'un au nom de ses idées politiques. Donc Raphaël Arnaud lui-même est condamné pour violence. Il est le fondateur de la Jeune Garde. Il a 2 collaborateurs parlementaires impliqués dans le drame qu'a subi Quentin. Et il est toujours député. Alors, il se cache. On nous dit il se cache pour sa propre sécurité. Non, il se cache parce qu'il a honte. Parce que ça gêne LFI. Et en réalité, je crois que pour Raphaël Arnaud, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule option. C'est la démission. effectivement, nos textes aujourd'hui ne prévoient pas qu'un élu se voit privé de mandat pour ses faits. Peut-être que Gérald Darmanin, s'il devait faire quelque chose, le ferait enfin. Mais aujourd'hui, pour moi,
Gérald Darmanin, il propose de rendre inéligibles ceux qui ont été condamnés pour violence physique.
Ça n'est pas
donc
le cas
il
aujourd'hui.
Il n'aurait pas pu se présenter, en fait.
Il n'aurait pas pu se présenter. Mais j'aimerais quand même dire que c'est au-delà de Raphaël Arnaud, c'est tout LFI qui est concerné. Le fondateur de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a eu des mots doux pour la jeune garde. Il a dit qu'il était très admiratif de ces jeunes gens. Il a plusieurs fois valorisé le fait d'aller taper les fachos, comme peuvent dire les antifascistes. Donc, en réalité, au-delà du cas Raphaël Arnaud, c'est tout LFI qui est dans cette tourmente. C'est tout LFI qui a soutenu ces agissements parfaitement indigne.
Raphaël Arnaud doit-il quitter l'Assemblée nationale ? Peut-il rester député ? Il n'y a que lui d'ailleurs qui peut le décider. Alors déjà dans un premier temps, la France Insoumise pourrait l'exclure du groupe, mais ce qui pour l'instant n'est pas le cas, puisque visiblement Jean-Luc Mélenchon ne change pas de stratégie et veut garder Raphaël Arnaud avec lui. Mais est-ce que lui-même devrait quitter le groupe, quitter l'Assemblée ?
En tout cas, il a de l'intérêt de la France Insoumise de mener une communication pour rassurer les Français parce que, comme je le disais mardi face à Bompard, ils donnent l'impression de communiquer que pour leur base militante en réalité et de se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils aspirent à la fonction présidentielle, donc il faut ouvrir pour parler à tous les Français. Mais j'aimerais aussi dénoncer l'hypocrisie du sujet parce que la réalité, le fond du problème, c'est quoi ? C'est l'extrême violence de certains de nos jeunes qui se décline dans plusieurs sujets. Le narcotrafic, les violences sexuelles et les idéologies politiques. Je rappelle, et c'est un chiffre officiel qui a d'ailleurs été rappelé sur BFM TV hier soir lors du forum, de 1986 à 2001, il y a eu 53 morts à cause de l'idéologie politique, 48 morts à cause de l'ultra-droite et 5 morts à cause de l'ultra-gauche. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour amenuiser ce qui s'est passé pour Quentin qui est inadmissible, mais effectivement, LFI doit se regarder dans la glace, mais tous les partis, parce que le vrai sujet, c'est comment tous les partis, pendant des décennies, ont joué avec des groupuscules politiques, faisaient de la violence. Le GUD qui est proche du Rassemblement National.
C'est pas vrai.
Quasiment tous les partis. Mais bien sûr, tu peux pas nier la réalité.
Abel, tu peux pas dire tous les partis. Pardon, les macronistes, ils n'ont pas une milice.
Mais les macronistes, ça vient d'où? Les macronistes.
Renaissance.
Conglomérat.
Non, mais tu dis tous les partis. Renaissance, le parti socialiste ne fait pas appel à ce genre de groupuscules. Là, la jeune garde, c'était le service d'ordre de la France Insoumise et peut-être aussi des écologistes. Et c'est vrai que pendant longtemps, le Front National faisait appel à ce type d'individus aussi.
Je ne nie pas la responsabilité. Après, promis, tu pourras me contredire. Je ne nie pas la responsabilité d'LFI qui, à chaque fois qu'il y a des scandales, qui les éclaboussent, se cachent. On l'a vu sur d'autres sujets avec Adrien Quatennens.
Là, il y a surtout la responsabilité de la jeune garde.
Donc là, il y a la responsabilité de la jeune garde. LFI est dans la sauce, comme on dit. Jean-Luc Mélenchon doit faire une communication officielle. Et effectivement, Raphaël Arnaud doit réfléchir quant à sa position à l'Assemblée nationale.
Laura Barton-Martinez.
Moi, je lis ta question. Raphaël Arnaud peut-il rester député ? La réelle question, c'est est-ce que Raphaël Arnaud aurait dû être député ? On est quand même sur quelqu'un qui est triplement fiché S. À quel moment une personne comme ça peut être dans l'hémicycle et peut représenter le peuple français ? C'est une question même que je peux poser là actuellement. Pardon, mais je suis désolée. Quand vous devez être policier, vous ne devez pas avoir casier judiciaire. Quand vous effectuez des missions d'intérêt général, vous ne devez pas avoir de casier judiciaire. À quel moment un député peut être triplement fiché S et me représenter.
Et pour rebondir sur le rôle du député, il y a des députés, notamment parlementaires européens du Rassemblement National, qui ont été condamnés et qui sont en procédure pour l'utilisation de leurs assistants parlementaires. Et en l'occurrence, là, on a un député dont plusieurs assistants parlementaires sont hors de sa circonscription, à Lyon, c'est pas la circonscription parlementaire de Raphaël Arnaud, et qui passent leur temps. Est-ce qu'ils étaient en congé ce jour-là ? On n'en sait rien, on verra, mais qui passent leur temps à taper des opposants politiques. Et donc, en réalité, Raphaël Arnaud, le député, utilise ses assistants parlementaires pour constituer une milice. Mais là, on est bien au-delà du scandale qu'on a pu voir vis-à-vis d'autres assistants parlementaires.
Là, on constate depuis quelques temps à quel point toutes les affaires qui concernent nos politiques, nos députés, nos parlementaires, à quel point elles viennent gangréner et biaiser le débat. On n'a plus de discours de fond, on n'a plus de discussion sur les réels problèmes de la France. Maintenant, tu regardes l'actualité, c'est quoi ? C'est un député qui détourne des fonds publics, un député qui tue des gens, un député qui...
Bah, qui exclut des gens, non.
Des collaborateurs parlementaires.
Des collaborateurs qui sont soupçonnés d'avoir participé au lynchage.
Tu as des présidents de groupe qui justifient... Pardon, mais les Français, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Tu as envie de savoir comment tu vas pouvoir gérer tes hôpitaux.
C'est pour ça, la question, c'est que quand un député se comporte mal, est-ce que pour protéger justement l'institution et ses collègues, il ne devrait pas se mettre en retrait et partir? Parce
mais
que
ça
finalement,
devrait même pas être à lui
tant
d'avoir
que Raphaël,
en fait,
tant que Raphaël Arnaud siégera à l'Assemblée nationale, vous verrez que les insoumis seront interpellés à l'Assemblée, qu'on ne parlera que de ça. Parce que là, il n'était pas là cette semaine. Mais là, en plus, il va y avoir les vacances parlementaires, entre guillemets, parce qu'il y a les municipales, donc on va plus voir l'Assemblée pendant un moment, mais quand elle va revenir siéger, on va regarder s'il est là. S'il est là, il va se faire siffler et il va se faire conspuer. S'il vient pas, on dira mais pourquoi il est pas là. Enfin, à mon avis, il y a peut-être aussi un devoir d'exemplarité, c'est-à-dire que quand tu as commis quelque chose ou que tes proches ont commis quelque chose, bah tu te mets en retrait et puis t'attends que.
Il se cache. Là, il est pas là.
Et je pense qu'en réalité, la France insoumise commence déjà à le lâcher. On voit que le discours change un tout petit peu, ils sont beaucoup plus gênés, et je crois qu'en réalité ils vont pas le défendre jusqu'au bout. Et ce sera le début.
Il est toujours membre du groupe de la France Insoumise.
Bien sûr. Attendons quelques semaines. Je suis persuadé que dans quelques semaines, la France Insoumise le lâche. Et en réalité, que tout s'effondre. Parce que la France Insoumise est fondée, pour partie, a fondé son discours sur cette action violente vis-à-vis de ce qu'ils appellent les fachos. Et donc, en réalité, c'est les fondements même de LFI qui sont en train de tomber. Et c'est les fondements même d'une union à gauche. C'est très intéressant. C'est que toute la gauche modérée qui a pu accepter de s'allier avec LFI, qui a pu accepter d'avoir la mention « la jeune garde » sur ses affiches. Même François Hollande avait sur son affiche aux législatives le soutien aux petits de la jeune garde, parmi tous les mouvements de gauche qui le soutenaient. Et donc en réalité, aujourd'hui, nous assistons peut-être enfin à le nettoyage de tout ce qui est mauvais à gauche, et peut-être que LFI va enfin lâcher ces gens-là.
On va faire le nettoyage partout, parce que là, tu vois la gueule qu'elles vont avoir nos élections. Pardon. Tu vas avoir tout le monde, en fait...
Nettoyage partout.
Le nettoyage partout, il a été fait ailleurs.
Il y a une hypocrisie. Demain, Jean-Luc Mélenchon se met à genoux à la télé pour demander pardon, on lui fera les mêmes reproches. Jean-Luc Mélenchon...
Il ne le fera pas, mais bon.
Il fait exprès d'être extrême. Demain, Jean-Luc Mélenchon dit « Je vire Raphaël Arnaud de LFI ». Tu penses que ça va calmer les autres partis ? On est dans un temps de communication
ça fera retomber la pression.
On va leur sortir d'autres choses, tu sais très bien.
Il n'aura pas le choix.
C'est-à-dire dans ce cas, il fait rien.
Il y a un drame. Et quand il se passe des drames comme ça, t'as toujours les familles qui appellent au calme et qui mettent de l'huile sur le feu.
Alors,
les partis politiques.
Je voudrais qu'on donne la parole à ceux qui nous appellent au 32-16. Il y a Manu qui est avec nous. Bonjour Manu. Il nous appelle de Porto-Vecchio, en Corse du Sud. Bonjour Manu.
Bonjour.
Ça va les gars, vous allez bien?
C'est notre chauffeur préféré corse. Comment ça va?
Ça va, c'est gentil. Bon, vous me rendez célèbre, vous êtes des fous. Bon, dites-moi, déjà, je voulais juste dire qu'il y a un Dunkerquois sur le plateau, ça me dérange, parce que Bastia va jouer contre Dunkerque, et ça va être très compliqué pour Bastia, donc déjà, ça me dérange.
Ah, il y a Bastien Dunkerque qui se prépare, oh là là.
J'aimerais bien répondre le côté Dunkerquois, on me donne envie de répondre, mais je connais très peu le foot.
Ah. Bon, après, ma femme est de Brédune.
Que pensez-vous du fait que Raphaël Arnaud siège toujours à l'Assemblée? Alors, pour l'instant, il n'est pas directement poursuivi dans cette affaire, mais il y a au moins deux de ses collaborateurs qui sont en garde à vue, et aussi un ancien stagiaire, ça commence à faire beaucoup.
Moi, je voudrais que, voilà, maintenant, ils sont gentils. Après, vous savez ce qui me dérange. C'est les discours hyper orientés des hommes politiques qui se servent de ce marchepied qui est triste et malheureux, ce drame qu'il y a eu à Lyon, pour régler leurs petits comptes et faire avancer leurs pions. Moi, comme Monsieur Gérald Darmanin dit que tout acte c'est le président qui avait dit pour acte antisémite, et Monsieur Darmanin pour acte de violence, hein, je crois. Non. Les gens qui ont un casier judiciaire n'ont rien à faire en politique. J'avais 18 ans, 19 ans, je sortais de l'armée. Pour être pompier volontaire, il fallait avoir un casier judiciaire vierge. Pas pompier volontaire.
Oui.
D'accord ? Et ces gars-là vont siéger à l'Assemblée nationale, à qui a de la poudre dans le nez, à qui a caressé une nana en la mettant sous drogue. Ces gens-là, ils vont nous expliquer à nous, citoyens qui sommes le doigt sur la couture, avons peur de perdre des points sur la route, ils vont nous expliquer la vie et nous dire ce qu'on doit faire, nous, mais on se fout de la gueule du monde. Moi, je veux que...
Donc
tout,
en fait, Manu, vous voudriez que les élus aient un casier judiciaire vierge. Absolument. Pour pouvoir se présenter.
Mais c'est obligatoire. Ce sont les gens qui vont voter les lois.
Après, c'est aussi aux électeurs de décider. Oui, mais les électeurs ne sont pas obligés de voter aussi pour ces personnes-là.
Non, ton approche, elle est faussée. Non, il ne peut pas se présenter s'il a un casier judiciaire. Donc après, nous, on va voter pour des gens qui ont un casier judiciaire vierge.
Je peux prendre un exemple, Manu. Ouais. Regarde, Alain Juppé, il avait été condamné dans l'affaire des emplois effectifs à la mairie de Paris. Il avait pris un an d'éligibilité de mémoire appel. Bon, il a purgé sa peine et puis ensuite il est revenu en politique. Il s'est présenté à la primaire de la droite pour être le candidat à l'élection présidentielle de la droite.
Ouais.
Bon, bah, est-ce que c'était choquant de voir Alain Juppé se présenter? Non.
Bah oui.
Ah bon?
Mais pourquoi?
Il avait purgé sa peine.
Alors je te prends un autre exemple.
Là, il n'a pas détourné de fonds.
Écoute-moi bien. Non, mais je te prends un autre exemple. Parce qu'on prend Alain Juppé parce que c'est une personne connue, voilà, machin, il a fait ou pas fait.
Bah oui, voilà. Mais c'est
pourquoi,
un bon exemple.
Pourquoi alors on ne va pas entraver? Alors pourquoi on va entraver la vie de citoyens normaux parce que ils ont un casier judiciaire vierge, mais pas Monsieur Juppé? Il n'y a pas marqué égalité sur le fronton des mairies. On se fout de la gueule du monde. Moi, je vais te prendre un autre exemple. Je vais te prendre un autre exemple. Écoute-moi bien.
Vas-y.
Je vais te prendre un autre exemple. Le conseil de gestion maritime en France. D'accord, sur la façade méditerranéenne. Il y a deux repris de justice dedans. Ces gens-là, ils nous expliquent à nous, ils font les lois en Méditerranée, nous expliquer pourquoi et comment on doit, nous, citoyens, pêcheurs, etc., nous comporter en mer. Ces gens-là ont été condamnés. Et pour des choses que c'est pas de la merde. Hein, c'est pas de la
c'est la question de l'exemplarité.
Voilà. Donc, on se fout de notre gueule du matin au soir. On nous dit à nous, petits citoyens, reste tranquille, fais bien, hein, parce que nous, on sait où tu habites, on va te les prendre les impôts s'il faut, on te vide de la maison avec un huissier, si tu fais le con. Mais par contre, eux, ils sont intouchables. Moi, je dis basta.
Mais
ça suffit.
C'est pas vrai, parce que là, il y a une enquête, vous voyez, il y a quand même des poursuites.
Sur les nominations, oui, moi, je suis d'accord. Sur les nominations, il ne devrait pas y avoir de gens condamnés avec
une nomination
qui puissent être nommés à des fonctions. En revanche, Manu, sur les élections, j'ai un petit souci. On a déjà vu que la justice était très instrumentalisée pour éjecter un adversaire politique. Je pense à Fillon, je pense à plein d'autres. Et donc, en réalité, de dire que tous ceux qui ont été condamnés ne peuvent plus être candidats, finalement, c'est peut-être encourager le fait que la justice soit instrumentalisée pour exclure un adversaire du combat.
Non, et ça peut être les obliger à une exemplarité, par exemple. Quelqu'un qui va s'occuper de mes comptes, va prendre mon argent pour payer...
Bah, tu ne votes pas pour lui.
Mais tu ne votes pas pour lui.
Peu importe.
La meilleure des sanctions, c'est l'élection.
Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que même si tu as des gens qui votent pour lui, bah tant pis, ils sont bêtes.
Bah oui, mais Laura,
quelqu'un qui vote pour une personne qui dilapide l'argent public, c'est quelqu'un qui est bête.
Je vais prendre l'exemple de Marine Le Pen. Et voilà, je vais sur un sujet touchy du moment. Eh bien, je pense que les juges ne devraient pas pouvoir empêcher les citoyens d'avoir le choix parmi les candidats à la prochaine élection, ne devraient pas pouvoir empêcher Marine Le Pen d'être candidat, malgré le fait qu'elle soit candidate.
Alors, on va continuer d'en parler. Merci Manu. Merci à Manu, notre Corse, d'avoir appelé au 32-16. Cédric est avec nous du côté de la Haute-Savoie. Il voulait aussi intervenir dans notre discussion. Est-ce que Raphaël Arnaud peut rester député? C'est la question qu'on vous pose ce matin en direct de Marseille, au Palais de la Bourse. Première étape de notre tournée spéciale municipale.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Marseille, première escale de notre tournée spéciale municipale. Les Grandes Gueules sont à Marseille avec vous. Vous êtes venus nombreux et ça fait plaisir de vous voir dans ce magnifique palais de la Bourse à deux pas du Vieux-Port. Vous pouvez nous rejoindre jusqu'à midi, même s'il reste plus de place. Hein. On est complet là. Là, on joue complet.
Cool.
On est là avec Laura Barton-Martinez, avec Antoine Dierce et Abel Boyi. Tout à l'heure, on parlera bien sûr des municipales à Marseille. Rien n'est joué, c'est le titre de la Provence ce matin. Bah oui, parce qu'il y a un sondage qui montre que c'est vraiment très serré. Il y a quatre principaux candidats, mais le match se fait surtout à deux entre le socialiste, le maire sortant Benoît Payan, et celui qui est le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio. Ça se joue entre les deux et la question est de savoir si le RN peut gagner Marseille. On en parlera tout à l'heure avec notamment le directeur de la rédaction de La Provence. Sachez que cette émission est diffusée bien sûr sur RMC, sur RMC Story, mais aussi sur BFM Marseille. On salue nos petits camarades de BFM Marseille qui donc ont décidé ce matin de diffuser les grandes gueules en direct. Nous étions sur l'enquête concernant la mort du jeune Quentin à Lyon, lynché par des militants de l'ultra-gauche. On s'aperçoit que parmi les 11 personnes gardées à vue, 3 sont des proches de Raphaël Arnaud, 2 collaborateurs et un ancien stagiaire. Raphaël Arnaud, ce député LFI du Vaucluse, qui pour l'instant est toujours à l'Assemblée nationale, toujours dans le groupe LFI. Est-ce que LFI doit l'exclure? Est-ce qu'il doit quitter lui-même l'Assemblée nationale? On en parle avec Cédric au 32-16. Bonjour et bienvenue à Marseille, Cédric.
Bonjour Cédric.
Bonjour les GG.
Alors, vous êtes en Haute-Savoie. Que pensez-vous de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, des Insoumis? Pour l'instant, Raphaël Arnaud est soutenu par ses troupes.
Tout à fait. Je rejoins ce que vous avez dit en préambule. À mon avis, c'est plutôt LFI qui devrait l'exclure carrément du parti. Ce serait déjà un geste fort d'empathie vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et ça démontrerait un peu plus le fait qu'il ne le soutienne plus. Malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement le cas. J'irai même plus loin, je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait même être auditionné par une commission d'enquête pour expliquer un peu les agissements de son parti et de ses membres, parce qu'on oublie quand même que tout ça vient du fait que c'est un meeting organisé à Lyon par Rima Hassan, qui est quand même députée européenne.
Alors c'était Sciences Po Lyon qui avait invité Rima Hassan à faire une conférence. Meeting, ouais.
Mais disons que c'est quand même une députée européenne qui vient faire de la promotion au niveau national. Antoine, à juste titre, disait qu'un certain nombre d'élus actuels sont embêtés et empêtrés dans des affaires d'assistants parlementaires. Je vois pas en quoi un assistant parlementaire payé par nos impôts vient faire la milice et s'occuper de la sécurité d'un meeting de cette sorte-là. Donc je pense qu'à un moment donné,
il y a mélange des gens.
De dévier carrément de ce qui est des rôles de chacun, et notamment des politiciens.
Oui, c'est vrai que ça serait bien aussi de nous expliquer précisément à quoi sert un assistant parlementaire. Parce que faisaient ces assistants parlementaires à Lyon dans le cadre d'une conférence d'une députée européenne LFI? Ils sont censés travailler à l'Assemblée avec le député.
Exactement. Et là, ils servent à faire le coup de poing. Hein,
oui, mais est-ce qu'il y a des règles précises aussi sur ces missions?
Tout l'enjeu, ça va être de savoir s'ils étaient en congé ou non ce jour-là. S'ils sont en congé, c'est leur temps personnel. Je ne recommande pas ce genre d'activité.
Ils sont en congé comme ça, tous ensemble, la semaine.
Bon, ce serait opportun. Et j'imagine qu'il faudra vérifier si les congés n'ont pas été posés a posteriori à l'Assemblée nationale. Tu sais, au fait, j'étais en congé. Je suis persuadé qu'on a affaire à un truc comme ça.
Il faudra vérifier aussi si Raphaël Arnaud connaissait leur emploi du temps, s'il savait qu'ils étaient à Lyon et dans quel cadre.
Exactement. Mais s'ils ne sont pas en congé, Raphaël Arnaud devra justifier de la mission qu'il leur avait confiée.
Est-ce qu'il sera entendu d'ailleurs par la justice, Raphaël Arnaud?
Je suis persuadé. En fait, soyons très clairs. Alors, il y a une notion d'immunité parlementaire. Est-ce que c'est un acte dans le cadre de ses fonctions ou pas? Mais s'il n'arrive pas à démontrer que ses assistants parlementaires étaient en congé et s'il n'arrive pas à démontrer qu'ils travaillaient pour lui, il va y avoir un problème. Clairement, moi, je pense qu'ils vont dire qu'ils étaient en congé, mais qu'en réalité, c'était sur le temps de travail de l'assistant parlementaire. Parce que Raphaël Arnaud emploie des gens pour faire le coup de poing, pour aller taper des gens qui n'ont pas les mêmes idées que LFI. Donc, je suis persuadé qu'on a affaire à un nouveau scandale des assistants parlementaires. Et un scandale bien plus lourd et bien plus gros, puisqu'il y a eu mort d'homme, que celui qu'on a déjà entendu.
Abel Boyi.
Arnaud emploie des assistants parlementaires pour aller taper des gens. Même tu tombes un peu dans le jeu des politiques. Les assistants parlementaires ont fauté. Est-ce que Raphaël Arnaud les a employés pour aller taper des gens? Tu ne peux pas affirmer ça. On attend de voir ce que vont donner les enquêtes.
Raphaël Arnaud est le fondateur de la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon dit bravo à ces jeunes qui vont se battre contre les fascistes. Nous glorifions leur action.
Parce que tu veux te faire LFI. Moi, je vote pas LFI. J'en ai rien à faire d'LFI. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie du spectacle politique dans lequel on se trouve. Est-ce que Raphaël Arnaud doit rendre des comptes? Évidemment. Est-ce que LFI doit rendre des comptes? Évidemment. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il y a un problème qui est beaucoup plus important. Quand tu parles du rôle des assistants parlementaires, tu sais très bien que.
Le définir.
Mais voilà, il y a une opacité autour de cela. Et il n'y a pas que LFI. Donc, et c'est au sérieux du député qui l'emploie. Donc, et dans tous les partis, tu as des députés plus ou moins sérieux. Donc, ne tombons pas dans la caricature et allons au fond du problème.
Oui, mais là, il ne faut pas non plus faire généralité parce que ça voudrait dire qu'ils sont tous pareils. Je suis désolé. Les assistants parlementaires des autres députés ne sont pas membres de groupuscules qui s'amusent à se frappé dans la rue avec d'autres. Enfin,
et là, relativisme dont tu fais preuve, elle m'inquiète. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de situation identique ailleurs.
Alors, on va remercier Cédric d'avoir appelé au 3216. On va accueillir Fred qui nous appelle de Paris. Bonjour Fred.
Bonjour à tous.
On va revenir sur la proposition de Gérald Darmanin qui dit désormais, quand on a été condamné pour violence physique, on ne devrait plus avoir le droit de se présenter à une élection et de siéger comme député. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Fred?
On va dire oui et non. Je pense que si on a été condamné, tout court, que ce soit pour violence physique, détournement de fonds, du Parlement européen, par exemple, si c'est au hasard, on ne doit pas pouvoir se présenter, en fait.
Donc, c'est-à-dire que par exemple, prenons l'exemple de Marine Le Pen, puisqu'elle va connaître son jugement avant l'été, au mois de juillet. Bon, si elle est condamnée, mais qu'elle peut quand même se présenter parce que sa peine a été réduite et que ça colle avec son calendrier, ça vous choquerait quand même qu'elle puisse se présenter en ayant été condamnée?
Si elle a été condamnée, ça me choquerait, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques minutes, vous vous posez la question comment quelqu'un comme Raphaël Arnaud, qui a un casier judiciaire, a pu se présenter et être élu. Donc cette question, il faut se la poser pour tout le monde. Autant pour Raphaël Arnaud que pour les autres. Et après, si je peux me permettre de rebondir, ces histoires d'assistants parlementaires qui seraient renvoyés pour faire le coup de poing. Alors, si c'est le cas, effectivement, que moi je condamne ça, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Maintenant, comme disait Abel et peut-être l'auditeur de force qui a appelé tout à l'heure, il y a quand même une très très grosse hypocrisie où moi je suis d'accord pour pointer du doigt les dérives de la gauche ou de LFI en particulier, il n'y a pas de souci, mais arrêtez de fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Par exemple.
Et qui ferme les yeux? Qu'est-ce qui se passe ailleurs?
Je vous donne un exemple très précis. Hier, sur, je crois que c'était BFM, il y avait un assistant parlementaire de... Excellente chaîne, puisque voilà. Il y avait quelqu'un qui devait passer en plateau. Et juste avant, alors je sais pas si c'est BFM ou LCI, pardon. Et juste avant, ils ont diffusé
Ça se complique. Attention.
On partait sur des bonnes bases et voilà.
Là, ça commençait bien et puis boum, voilà. Tout d'un coup.
Et tout est gâché. Et donc, la chaîne a diffusé un documentaire sur la personne qui devait aller en plateau, qui était un assistant parlementaire de Jordan Bardella et qui faisait le coup de poing dans une manif devant une fac quelconque. Ouais. Donc, est-ce que ça c'est bien ou pas? Est-ce que vous allez faire une émission là-dessus? Est-ce que vous allez faire une émission là-dessus?
Pareil. Il n'est pas accusé d'avoir tué quelqu'un, mais de manière générale, il faut que les politiques fassent attention aux personnes qu'ils emploient, leur entourage. Bien sûr, c'est normal qu'on demande des comptes.
Après,
c'est
pas. Heureusement qu'il a fait.
Oui, mais là, on parle quand même de. C'est une enquête pour meurtre. Hein, pardon, Fred. Là, on n'est plus dans la même dimension.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut faire, c'est arrêter ces pratiques, parce que si on continue comme ça, il y en aura d'autres en fait.
Fred, on va pas être hypocrite. Et là, Antoine, je suis désolé, mais
C'est pas pareil des deux côtés.
L'ERN et les LFI s'appuient sur des groupuscules parfois pour sans doute faire le service d'ordre.
Qui ont des comportements problématiques.
Donc il faut faire le ménage. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'a demandé Le Cornu. Sébastien Le Cornu a dit faites le ménage.
Pardon,
mais c'est Antoine, tu es dans le...
Attendez, je vais te donner un exemple juste après. Est-ce que je peux parler?
Vas-y.
Je pense que le RN, c'est fini, mais je suis pas le défenseur du RN. Moi, j'aimerais vous donner un exemple personnel que j'ai raconté hier sur Facebook. En 2012, j'étais responsable syndical étudiant. Je distribuais des tracts pour l'UNI sur une fac parisienne.
C'est un mouvement étudiant classé à droite.
De droite. À l'époque, on est affilié UMP, etc. Très classique. Voilà. Je suis reparti. Emmené par les pompiers. C'est-à-dire que des mecs qu'on n'appelait pas encore Antifa à cette époque-là, des mecs d'extrême gauche, me sont tombés dessus. Ils étaient gants coqués, casques. Je suis parti à l'hôpital après avoir pris un coup et j'ai fait plusieurs jours d'ITT en pensant que j'allais perdre un œil. Et en réalité, j'ai vu dans les yeux de ces gens-là en face le fait qu'ils ne me donnaient pas la qualité d'être humain. C'est-à-dire que parce que j'étais un militant de droite, j'étais parfaitement déshumanisé et qu'il était autorisé de me frapper et de vouloir me détruire même physiquement. Et donc la gauche a soutenu ces gens-là depuis des années, la gauche a déshumanisé le militant de droite et autorisé à sa mort sociale, voire à sa mort physique. Et donc, en réalité, ne renvoyons pas droite et gauche dos à dos.
Il y a des mouvements aussi ultra-droite.
Je termine là-dessus. La droite et le Rassemblement National condamnent de manière très claire le GUD, etc., ne veulent pas être associés avec eux. Jean-Luc Mélenchon glorifie les jeunes de la jeune garde. Nous saluons l'action courageuse de ces jeunes. C'est pas pareil.
Tu t'inquiétais de mon relativisme vis-à-vis de LFI. Moi, je m'inquiète de ta complaisance avec l'extrême droite. Tiffany Joncourt, députée RN du Rhône, qui a pris la parole après la minute de silence pour Quentin, qui était son mari, appelé Merck, un ancien hooligan néo-nazi condamné pour avoir frappé une photographe et deux policiers.
Ancien.
Impliqué dans la dégradation de véhicules. Je peux finir.
10-15
devant un local de supporters de Saint-Etienne et dans l'opération coup de poing contre la mosquée de Poitiers. Et pendant les législatives,
le RN a fait le nettoyage.
Je t'ai laissé parler, tu vois. Faut pas être gêné comme ça.
Tu parles de trucs il y a 10-15 ans.
Et pendant la campagne des législatives, cette dame a reçu le soutien de tous les groupuscules d'ultra-droite de Lyon et des alentours.
Okay.
Donc voilà. Donc tu ne peux pas dire que il n'y a que LFI qui est concerné par cela.
C'est vrai qu'on demande au RN de faire le ménage.
Pardon.
Il faut aussi demander à LFI de faire le ménage.
Tout le monde va faire.
Mais c'est ce que Jean-Luc Mélenchon glorifie l'action de ces jeunes de la jeune garde. Est-ce que Marine Le Pen a dit vive le GUD? Au contraire, Marine Le Pen les condamne.
Marine Le Pen, il se trouve dans sa communication. Pour ça, je suis d'accord avec toi.
Ça n'est pas pareil.
Vous êtes d'accord.
Ça n'est pas pareil.
D'un côté,
le parti glorifie l'action violente, de l'autre, le parti condamne l'action violente.
Je te réjouis pour taper sur LFI gratuitement, alors que LFI ne sont pas les seuls à devoir se regarder.
Abel, ça vient pas de nulle part. Pardon.
D'accord, mais il n'y a pas que Fred. LFI qui doit se regarder dans la glace.
Oui, mais c'est vrai que dernièrement, on a été exigeant, et tout le monde a eu raison de l'être, avec le RN, en demandant à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, de faire le ménage. Ce qu'ils ont fait, peut-être pas suffisamment, mais il y a eu quand même des gens exclus. Et là, la stratégie Mélenchon, c'est l'inverse. La stratégie Mélenchon, c'est de faire corps autour de Raphaël Arnaud, de dire on n'a rien à nous reprocher, c'est nous les victimes.
C'est que Mélenchon.
On nous attaque.
Dans les rangs, c'est pas si clair que ça.
En tout cas, publiquement, ils disent tous la même chose. Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, il y a une stratégie de jusqu'au boutiste un peu. Est-ce que c'est une bonne stratégie? J'en sais rien, mais c'est pas la même stratégie que Marine Le Pen et Bardella. Il faut le reconnaître.
Au final, encore une fois, en fait, moi, ce que je déplore, c'est que quand il y a une histoire qui tombe pour n'importe quel parti politique, ça vient mais remuer la merde de tous les autres. Et en fait, tu ne constates qu'une seule chose. Et après, on vient se plaindre parce que les Français ont une défiance envers leur politique. Mais en fait, peu importe où tu regardes, à qui est accusé de pédocriminalité, à qui est accusé de détournement de fonds publics, à qui est accusé de violence aggravée.
La justice, elle passe quand même maintenant.
Pardon,
il y a un procès. Il y a le procès de Marine Le Pen. Elle va sans doute pas pouvoir se présenter.
Mais avec toutes les histoires
Le sénateur a été poursuivi en justice, celui qui avait voulu soumettre chimiquement sa collègue pour sans doute abuser d'elle. Pendant longtemps, effectivement, il y avait une impunité. Maintenant, on peut plus dire ça. La justice passe.
Le problème, c'est
qu'il y a effectivement encore des
protections
parlementaires.
Et ce qui m'interroge, c'est que ces histoires, elles sortent toujours avec un timing parfait. Donc, ça veut dire aussi. Elle sort toujours avec un très bon timing. Alors je parle pas évidemment de la mort tragique de Quentin, mais je parle de toutes les histoires qui sont révélées. Et elle sort toujours avec un timing idéal. Donc ce qui signifie que c'est en général les infos, on les a déjà, que les partis les ont déjà, et que plutôt que de faire le ménage à l'instant T, on se les garde sous la bassine.
La jeune garde, je pense que l'erreur, c'est de pas avoir fait le ménage avant. C'est-à-dire que s'ils avaient coupé les liens une fois que Raphaël Arnaud était condamné, s'ils avaient coupé les liens, aujourd'hui la France Insoumise se retrouverait pas dans
ils
la tourmente.
Ils l'ont fait élire député.
Là, ils ont fait une erreur. Ça, ils ont voulu le faire élire député. Je rappelle d'ailleurs que la maire socialiste d'Avignon s'était félicité de l'élection de Raphaël Arnaud. Donc même à gauche, ils sont tous embarrassés parce qu'effectivement,
même les modérés,
il y avait le logo de la jeune garde sur les affiches de certains candidats
écologistes,
Hollande.
Hypocrisie, parce que quand tu vois François Hollande qui vient acter justement le divorce avec LFI, c'est ridicule. Puisque le Parti Socialiste a eu besoin de LFI pour avoir quelques sièges à l'Assemblée nationale.
Ils essaient de se racheter une virginité. Il y a pas mal d'hypocrisie.
On va remercier Fred d'avoir appelé au 32-16. On va regarder le résultat de notre consultation. Raphaël Arnaud peut-il rester député? On vous a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules et vous dites non à 83%. C'est assez clair. Dans un instant,
Tout Marseille la réclame. Anaïs Inessen sera là pour le On s'en fout, on s'en fout pas. À tout de suite en direct de Marseille au Palais de la Bourse.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct de Marseille, première étape de notre tournée spéciale municipale. Nous sommes au Palais de la Bourse, dans ce magnifique endroit. On est à deux pas du Vieux-Port. D'ailleurs, sur RMC Story, vous voyez les images de Marseille ce matin. Il fait beau. Enfin, un endroit où il ne pleut pas, ça fait du bien d'être venu à Marseille ici.
Pourquoi tu regardes Antoine?
Ben, Antoine, parce que.
Il pleut que sur les cons, comme.
Je regarde Antoine parce que c'est la première fois qu'il découvre Marseille, le Dunkerquois.
Et donc, le soleil.
C'était un choc pour lui. En tout cas, on est vraiment heureux d'être là. Pour parler bien sûr de l'actualité entre nous comme chaque matin, mais aussi pour parler des municipales à Marseille. Dans un instant, on parlera notamment de cette question, hein. Est-ce que le Rassemblement National peut gagner la ville? Il y a un sondage publié qui est à la une de la Provence ce matin qui montre que ça sera très serré. Rien n'est joué, c'est le titre de la Provence. Et d'ailleurs, le patron de la rédaction de la Provence sera avec nous dans les grandes gueules. Mais il est temps d'accueillir maintenant Anaïs Inessens.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Oh la classe!
Bonjour Anaïs Inès.
Bonjour les GG, bonjour Marseille. Emmanuel Macron concède de grosses erreurs, des erreurs par excès de confiance lors de ses mandats. C'est ce qu'il a confié hier aux médias Brut India. On s'en fout ou pas Laura?
Oh bah non, on s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
Antoine.
On s'en fout pas.
À chaque fois que j'ai eu trop confiance en moi, j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs, expliquait le président en marge d'une visite officielle à New Delhi. Il faisait référence à ses discours. Quand on considère qu'on peut tout dire, parfois c'est mal compris, dit-il. Oui. On a un excès de confiance quand on est moins sensible à la façon dont ce sera perçu par les autres. C'est ce que dit donc Emmanuel Macron. Laura, pourquoi tu t'en fous pas?
Il est lucide.
Mais non, mais alors attends. Déjà, encore une fois, c'est pas de sa faute, c'est parce que nous,
on comprend pas.
C'est ça, mais pauvre président.
La pensée complexe.
Non, mais pauvre président incompris. En fait, il a un peuple d'idiots et on ne comprend rien à ce qu'il. Le problème, c'est qu'il aurait eu quelques excès de confiance. En fait, il a deux mandats d'excès de confiance. Ce mec est complètement démago. Il est fou.
Mais en même temps, il a été élu, réélu. Non, ça donne la confiance.
Alors, il n'a pas été réélu, selon moi. Ça a été un vote de.
C'est quoi ça, un vote de fou?
Ben, c'est un vote de fou. C'est-à-dire que t'as. Non, mais je suis désolée.
Attends, explique-moi le concept. Alors, du vote de.
Moi, c'est un jour de grand vent.
Je voudrais quelqu'un en face de moi qui ait voté Emmanuel Macron au
avec
deuxième
enthousiasme.
Tour, avec enthousiasme, et qui était super.
Donc on a voté contre pour Emmanuel Macron.
On a voté contre le RN, c'est une évidence. Malheureusement, ça fait des années que maintenant on ne vote plus pour un président, mais on vote contre un candidat. Ce qui fait les.
Oui, mais là quand choses. Il dit finalement, j'ai trop la confiance, et peut-être que par cet excès de confiance.
Mais parce qu'il est persuadé d'être le mec le plus intelligent. Les gens de la Terre, le plus beau. Quand tu le vois, enfin, tu regardes, il n'y a aucune politique nationale, il ne fait que essayer de briller à l'international. Franchement, c'est un échec. Quand tu vois l'Ukraine, quand tu vois la Russie, quand tu vois ce qui s'est passé dans les pays arabes ou musulmans, ce mec ne sert strictement à rien.
Ce président.
Ah non, mais je ne le respecte pas.
Abel Boyi.
Emmanuel Macron, c'est le président Pikachu. C'est-à-dire que.
Voilà.
Le mec, il est en confiance.
Ah oui, mais c'est la réalité. Ça pleut aux Marseillais.
Le mec, ça fait 10 ans. Qui se comporte comme un pervers narcissique avec la France. Ça fait 10 ans
qu'il
fait
du mal aux Français. Pikachu est pervers narcissique.
Ah ouais, non mais c'est
je savais pas.
Ça. Et en plus, comme d'autres politiques, il est atteint de dysmorphophobie inversée. Dans la glace, il se voit comme un beau gosse surintelligent, alors que c'est l'inverse. Je suis désolé, ça fait 10 ans qu'il est là. Faut vous souvenir, à l'époque des Gilets jaunes, il avait envie d'emmerder certains Français à l'époque du Covid. Il a eu des mots qu'il a toujours regrettés. C'est « je te mets une gifle, je regrette parce que je t'aime et je t'en remets une autre qui fait deux fois plus mal derrière. Regardez l'état du pays. » Et là, il pourra plus dire que c'est de la faute de ses prédécesseurs. Ça fait 10 ans, et là, vivement qu'il s'en aille parce que c'est plus possible.
Ouais, mais sauf alors voilà, je sens que le public est content de vos discours. Oui. Et je partage évidemment, mais il reste un an. Il va encore être là pendant un an. Alors moi, j'ai presque envie d'être un petit peu optimiste et de me réjouir que à chaque fois, il y a une prise de conscience un peu plus importante de toutes ces faillites, de tous
mais
ces
là,
échecs.
Il prend conscience qu'on est con.
Et donc, ce que j'ai envie de lui dire,
c'est ce qui nous a laissé dans la merde, en fait. Attendez. Et c'est salut.
Ce que j'ai envie de lui dire, c'est
il est encore là pendant un an.
Ouais, bah, Monsieur le président. il vous reste un an. Alors, votre pensée complexe, on a bien compris. Voilà. Mais que c'est un an, si vous voulez rattraper vos échecs, que c'est un an soit utile. Il avait promis des référendums. Il avait dit, je vais redonner la parole aux Français. Oui. Mais ils sont où, ces référendums? On peut faire plusieurs référendums, en commençant pour moi par un référendum sur l'immigration, dans l'année qui vient, pour traiter ce problème.
Sur la fin de vie, à mon avis. S'il y a un référendum, ça sera sur la fin de vie.
Ensuite, traiter la question de la dette. Bref, ce président n'a pas été bon. Il s'en rend compte lui-même. Il lui reste un an, monsieur le président.
C'est pas tout ce qu'il dit, hein.
Mais moi, j'entends
il dit pas,
pas ça,
qu'il n'a pas été bon.
Moi, j'entends
il
pas
dit
ça,
que parfois, il a trop confiance en lui.
Il a des erreurs.
Et en plus, on le
Attendez. Dans sa psychologie, dire « j'ai pu commettre des erreurs », c'est déjà beaucoup.
Enfin, en même temps, tout le monde peut dire ça. Pardon. Mais tout le monde, n'importe qui, peut dire « j'ai pu commettre des erreurs ». Personne n'est parfait. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment un aveu?
Guy-Georges, il dit pardon.
Non, l'aveu, c'est l'excès de confiance. Non,
mais voilà, c'est ça. Parce que les erreurs, bien sûr, tout le monde en commet.
C'était beaucoup. Bon, on enchaîne. Les avalanches.
Qu'est-ce qu'elle a dit, Laura?
Je te laisse répéter.
Non.
Non, mais dans le sens, ça veut dire que quoi? Si Guy Georges, il dit, ah, pardon, j'ai commis une erreur, ça passe.
Là, effectivement, tu dérapes.
Vous dérapez. Les GG, les avalanches, le risque remonte à 5 sur 5 dans la majorité des massifs de Savoie et de Haute-Savoie aujourd'hui. On s'en fout ou pas, Laura?
Ah, bah non, on s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
Antoine.
On s'en fout pas.
Un manteau neigeux extrêmement instable et surtout généralisé à quasi tous les domaines en raison des fortes chutes de neige de ces derniers jours. Et puis le vent violent qui arrive sur les massifs aujourd'hui. Choisir le hors-piste ces prochains jours, c'est choisir d'exposer sa vie et celle des secouristes, alerte la préfecture de Haute-Savoie. Trop de drames ces dernières semaines. GG, un bilan qui monte à 28 morts dans les avalanches en France cet hiver. Ouais. Un chiffre déjà bien supérieur à la moyenne de ces 10 dernières années. Antoine.
On s'en fout pas parce que ce genre de sujet, à chaque fois, pour moi, ça me rappelle la question des coûts du sauvetage. Tous ces gens qui se mettent.
Au-delà même du coût de sauvetage et le coût de la vie, parce qu'il y a quand même 28 personnes décédées, c'est énorme.
Évidemment.
Malgré les appels à la prudence.
Celui qui va faire du hors-piste, malgré le fait qu'on lui ait dit qu'il y avait un risque d'avalanche, c'est bien sa responsabilité personnelle, pardon. Je suis assez libéral là-dessus. En revanche, quand on annonce ça, il y a un risque d'avalanche. Nous vous informons que si vous devez vous trouver en situation de détresse en hors-piste, nous ne viendrons pas vous chercher.
Ah bon?
On a annoncé.
C'est un peu rude.
Non, pardon, soyons très clairs. C'est une question de responsabilité.
Donc, quelqu'un qui se noie devant toi, tu lui dis, bah, écoutez, il fallait apprendre à nager.
Le drapeau, il était rouge.
Non, attendez, vous caricaturez mes propos. J'ai pas parlé de quelqu'un qui se noie. J'ai parlé. Attendez. Non, vous faites exprès de pas comprendre. Ce que je viens vous dire, c'est que là, on a une annonce, une alerte. La préfecture indique qu'il y a un risque 5 sur 5. Et donc, je vous dis, après ce type d'annonce, vous y allez à vos risques et périls.
Quand il
s'agit de gravir l'Himalaya, le gouvernement népalais met des panneaux immenses en haut. Passer ce panneau, c'est à vos risques et périls. Et le gouvernement népalais ne va pas chercher le mec qui meurt en haut de l'Himalaya. Ils sont jamais retrouvés. Ouais. C'est pareil. On te met un panneau, c'est interdit là aujourd'hui, il y a un trop gros risque d'avalanche, tu y vas quand même, à tes risques et périls.
La moitié des.
Vous êtes d'accord avec ça, Laura?
Moi, je suis d'accord avec le fait de faire payer aux gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis que t'es un grand garçon, que tu vas être plus fort que la neige, tu vas payer si on doit te rapatrier, mais tu vas chercher les gens. Et tu dis en haut de l'Himalaya, les hélicoptères ils peuvent pas monter, tout le monde n'est pas entraîné pour monter jusqu'en haut. C'est peut-être pour ça que tu vas pas chercher les gens. Demain t'as un mec qui meurt,
tu vas mettre en danger l'hélicoptère et son équipage pour aller chercher quelqu'un.
T'es sauveteur.
Non, tu mets pas en danger.
Je suis pas d'accord.
T'es sauveur. Si quelqu'un se noie, effectivement, c'est un accident.
T'as drapeau rouge, baignade interdite. Le mec il va se baigner, il se noie devant toi, tu lui dis
ah non, vous avez dépassé les bouées jaunes. Tant pis.
Il y a la responsabilité de la personne qui enfreint la loi, mais la première chose qui t'inquiète, ça doit être le prix de la vie et pas le prix du sauvetage quand même.
Merci Anaïs Inès. Dans un instant, tiens, on va parler des municipales, parce que l'un des sujets de préoccupation des Français partout dans toutes les villes, c'est la sécurité. Et on demande aux maires d'agir sur le thème de la sécurité, alors qu'a priori, c'est une compétence de l'État. Donc les maires n'arrêtent pas de faire des promesses, plus de policiers municipaux, des caméras de vidéosurveillance. Est-ce que c'est suffisant? Attendez-vous de votre maire qui soit finalement le shérif de votre ville? On en parle dans les GG en direct de Marseille sur RMC, RMC Story et BFM Marseille. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.